Luc, le Devoir s'est livré à quelque chose d'intéressant. Ils ont publié deux articles. Un qui vient d'une, une entrevue avec une végane convaincue et l'autre avec quelqu'un qui dit, garde, les véganes sont dans le champ pas à peu près. Et on a au bout du fil la végane convaincue, Valérie Giroux. Bonjour, Mme Giroux.
Oui, bonjour, Mme Segal.
Bonjour.
Vous êtes végane et antispéciste. Qu'est-ce que c'est que l'antispécisme?
Ben, l'antispécisme, c'est l'idée que la simple appartenance à une espèce ou une autre n'a pas plus de pertinence d'un point de vue moral en soi là, que, par exemple, la couleur de la peau, l'âge, le sexe, qu'il faut encore voir quels sont les intérêts des individus en question. Et on a un grand principe de justice là, qui exige que les cas qui sont semblables soient traités de la même manière. Donc, si un individu a un intérêt à ne pas souffrir, un intérêt à vivre, un intérêt à ne pas être exploité, ben on doit accorder autant d'importance à son intérêt, même s'il est un animal non humain, que s'il était un être humain. Donc, l'antispécisme, okay, c'est la position qui refuse la discrimination.
Vous voulez qu'on traite, il faut traiter un chiot comme un nourrisson.
Pas nécessairement, parce que le chiot n'a pas nécessairement les mêmes intérêts que le nourrisson. Donc, c'est pas une égalité de traitement, mais c'est une égalité morale. C'est un peu comme pour les êtres humains. On considère qu'on est tous des égaux d'un point de vue moral. Ça signifie pas qu'on a tous les mêmes droits. Un bébé, par exemple, n'a pas tous les mêmes droits qu'un adulte. Ça dépend de ses intérêts. Ça dépend de plein de choses, évidemment. Donc, c'est pas une égalité de fait, mais bien une égalité morale.
Et c'est parce que
mais qui veut dire quoi en pratique? Ça veut dire quoi en pratique? C'est une égalité de traitement? Comment vous avez appelé ça?
Ben c'est justement pas nécessairement une égalité de traitement. Ça peut être une égalité de traitement quand les intérêts des individus sont effectivement comparables. Mais ce que ça voudrait dire, c'est que par exemple, tous les animaux qui sont sensibles, donc qui ont un point de vue sur le monde, qui ressentent la douleur, qui font l'expérience subjective des choses, ben eux, ils devraient leurs intérêts fondamentaux, l'intérêt à continuer sa vie, l'intérêt à ne pas être asservi, l'intérêt à ne pas souffrir, devraient être protégés d'une façon comparable à nous, parce que l'intérêt justement qui au fondement de nos droits fondamentaux, ben on l'a en commun, ils l'ont en commun avec nous. Donc, ça
mettez-vous les serpents là-dedans?
Les serpents sont des êtres sensibles à ma connaissance, mais là, évidemment, il y a des débats chez les biologistes pour savoir quels animaux sont capables de conscience, quels animaux sont capables de ressentir des choses. C'est évidemment difficile, mais
les moustiques, les moustiques, les maudits maringouins, vous voulez pas les protéger, maringouins, quand même, hein?
Les maringouins, je pense qu'ils sont dans l'espèce de zone grise. Je ne pourrais pas dire s'ils sont sensibles ou pas. Et s'ils ne le sont pas, c'est qu'ils n'ont pas d'intérêt à protéger. Donc, ce serait pas... ça peut être pour plein de raisons.
Eux autres, ils veulent mon sang. Ils sont des carnivores. Ils veulent mon sang, eux autres.
Vous avez le droit de vous protéger contre eux, en tout cas.
Dans l'optique où vous mangez pas d'animal parce que vous estimez que les animaux doivent avoir un traitement équitable, donc qu'on doit pas les exploiter, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Les animaux, eux autres, ils ont-ils le droit de se manger entre eux autres?
C'est pas une question de droit. C'est que les animaux qui sont pas, on les considère pas comme des capables d'assumer une responsabilité morale. Il y a certains êtres humains qui sont dans cette situation-là aussi. Okay. C'est-à-dire que on va pas les tenir responsables. On va pas considérer qu'ils ont des obligations en tant que tels. Donc même que ce soit en droit ou en éthique. Donc les animaux sont dans cette catégorie-là. On pourra pas blâmer un lion de tuer sa proie. Évidemment, on pourra pas le tenir responsable. Il est pas en train de commettre une injustice. C'est comme en dehors de la sphère de la responsabilité morale.
Mais vous trouveriez que moi, si je tuais la même gazelle que le lion, moi, je ferais une faute morale.
Voilà, parce que vous avez la capacité d'être tenu, de respecter vos obligations morales. Vous pouvez être tenu responsable, donc, de vos actes d'un point de vue moral, si bien que, oui, vous avez la possibilité de ne pas contribuer à la violation des intérêts fondamentaux des animaux. Vous avez donc la responsabilité, je pense, d'éviter de le faire.
Est-ce qu'on devrait adapter nos lois? Qu'est-ce que vous recommandez?
Oui, je pense qu'il faudra que le droit suive, évidemment, ce que l'éthique exige. C'est comme ça dans toutes les sphères. Là, quand il y a souvent des mouvements sociaux qui revendiquent, à un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a des injustices en droit. parce que évidemment la justice et le droit, ce sont pas des synonymes. L'histoire nous le rappelle. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire changer éventuellement les choses, de faire reconnaître que telle pratique, par exemple, n'est pas acceptable d'un point de vue moral. Et quand on est suffisamment nombreux et forts à se rendre compte de ça et à exiger que les choses changent, ben le droit finit par s'adapter puis à protéger les personnes vulnérables, les êtres vulnérables.
Si je dois vous avouer que je suis pas mal carnivore. J'aime bien ça. OK? Et j'ai de la difficulté à considérer qu'un veau, ça a la même valeur qu'une vie humaine.
Ah, je comprends. Mais c'est ça, elle est forte. On faut pas trop accorder, je pense, de faut pas trop se fier sur nos intuitions avant d'avoir vraiment réfléchi, parce que souvent on le voit dans le passé, on a eu des intuitions qui étaient on a pensé que des gens, par exemple, appartenant à d'autres communautés que la nôtre avaient moins de valeur. Faut faire bien attention. Mais cela dit, je tiens à quand même spécifier que il n'est pas nécessaire de considérer que tous les animaux sont égaux, que justement le veau autant de d'importance ou de valeur morale que la vie, qu'une vie humaine, pour accepter les obligations, l'obligation d'être végane, c'est-à-dire de renoncer à exploiter ces animaux-là. C'est pas parce que le veau vaudrait moins d'un point de vue moral qu'on peut le torturer, le tuer. On peut quand même s'opposer à la violation comme ça de ses intérêts pour le plaisir gustatif qu'on en tire. Parce qu'aujourd'hui, on sait bien qu'on peut se nourrir et très bien vivre sans infliger autant de violence aux animaux.
Mais vous savez, j'ai vécu un bout de temps à campagne, puis je regardais les vaches, là, à l'heure de la traite, ils étaient heureuses qu'on vienne les traire. Je regardais les poules, là, mes poules, là, quand j'allais ramasser l'œuf, ils en pondent à peu près un par jour, là. Ça les libérait, là. Il n'y aurait pas pu. Il me semble que l'être humain fait partie de l'équilibre des animaux aussi.
Je pense que c'est un raisonnement qui... Je comprends cette intuition-là, mais d'abord, d'une part, il faut se rendre compte que la plupart des produits laitiers, la très vaste majorité des produits laitiers, des œufs, des produits d'origine animale, en fait, qu'on retrouve sur le marché, ne proviennent pas d'élevages respectueux, peut-être auxquels vous référez, là, c'est de l'élevage industriel, dans une violence inouïe. Ça, faut se le rappeler. Donc, on commande un dessert qui contient des œufs au restaurant. Toutes les chances sont que les œufs ont été produits, obtenus dans des conditions atroces.
Comment ça, atroces? Non, les poules ont besoin d'être bien nourries pour que la coquille des œufs soit correcte.
Non, mais vous connaissez un peu comment ça fonctionne dans les élevages industriels. Il y a des tortures épouvantables qui sont commises. C'est peu controversé.
C'est de moins en moins vrai, d'ailleurs, ça. Moi, je suis d'accord avec vous, on ne doit pas faire souffrir un animal, OK? Mais quand je prends les œufs à une poule qui est bien nourrie, je vois pas pourquoi, en quoi ça devient ça devient un péché moral. Comprenez-vous?
Ben oui, je comprends la question, mais il y a à peu près 95% de nos produits d'origine animale qui viennent d'élevage industriel. Donc c'est pas vrai qu'on fait juste prendre un œuf à une poule sans lui causer de mal. Mais, c'est juste pas comme
ça. Mais ça veut dire quoi? Industriel veut dire quoi?
L'élevage des poules en batterie, où elles sont toutes entassées, il y a une grande proportion d'entre elles qui meurent à cause des conditions qui sont tellement abominables et qui sont juste comme associé au coût de production normal, qui sont juste c'est juste considéré dans les pertes.
Ça donne que ces animaux-là vivent moins longtemps que nous autres, là. Une poule, ça vit pas 20 ans.
Ah, ben, c'est-à-dire qu'une poule, l'espérance de vie d'une poule, je ne sais pas exactement, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que son espérance actuelle, parce que, évidemment, là, à l'heure actuelle, elle va être tuée après, alors qu'elle sera encore très jeune, dès qu'elle sera moins rentable pour l'industrie. Donc, on écourte, évidemment, son espérance de vie, mais c'est quand même à dire que pour moi, le véritable problème, la véritable racine du problème, c'est pas la manière dont on les exploite. C'est vraiment l'exploitation en tant que telle. Parce qu'on, quand un raisonnement antispéciste, en fait, veut qu'on compare, qu'on se pose la question, comment est-ce qu'on réagirait, comment est-ce qu'on évaluerait, analyserait les choses si c'était des êtres humains qui étaient impliqués. Puis là, évidemment, il y a plein de différences entre les êtres humains et les autres animaux, puis il faut pas les nier. Mais il faut voir, on essaie d'isoler les paramètres, puis de se demander vraiment, est-ce que dans ce cas-là, il y a une différence qui justifie la différence de traitement.
Le végétal est aussi une forme de vie. Quand je coupe une fleur, elle fane. Elle doit souffrir quelque part, la fleur. Est-ce que vous risquez pas un jour d'être pris à votre propre piège, à votre propre logique, puis à vous rendre compte que, dans le fond, vous tuez la vie aussi quand vous mangez du végétal?
Mais le point de vue animaliste, antispéciste, en fait, ne vise pas à protéger la vie pour la vie. Une bactérie, c'est en vie aussi, un virus. Bon, c'est un point de vue plutôt biocentriste, là, qui n'est pas celui des animalistes. Mais pour les animalistes, c'est plutôt l'expérience subjective, la capacité de ressentir de la douleur qui fait en sorte que l'individu a des intérêts fondamentaux, que lui, il peut être affecté subjectivement par ce qui lui est fait. Puis la plante, elle n'a pas cette capacité-là. Elle n'a pas le système nerveux qui lui permet d'être conscient, de ressentir les choses, d'avoir un point de vue sur le monde. Puis on n'a pas donc d'obligation morale, okay, à mon avis, qui la concerne directement, elle. Okay. Il peut y avoir des obligations.
Mais est-ce que vous sentez une adhésion de la population à cette nouvelle façon de concevoir la vie?
L'adhésion que je pense être grandissante, c'est celle qui veut qu'on a, quand on n'a pas besoin de contribuer, de participer à l'élevage, à l'exploitation des êtres sensibles pour, par exemple, le plaisir gustatif qu'on peut tirer de certains aliments, parce qu'on peut être en bonne santé puis très bien vivre sans ça, ben je pense que la plupart des gens reconnaissent que c'est injustifiable dans ce contexte, dans ces circonstances-là.
Les poissons sont là-dedans.
Il n'y a plus de doute sur la sensibilité des poissons.
Mais on ne doit pas empêcher le phoque de tuer la morue, mais la morue a le droit d'être protégée de l'être humain.
Ben oui, parce que c'est l'idée, c'est de pouvoir encore une fois avoir une responsabilité morale. On ne peut pas s'inspirer...
Parce que vous savez que les phoques sont en train d'exterminer les morues, ben pas mal plus sûrement que les êtres humains, là.
Ben ça c'est un problème d'un autre ordre, mais on pourrait certainement pas se tourner vers le monde animal pour essayer vers eux comme modèle, disons, moraux. Là, ça
le philosophe qui vous donne la réplique dans Le Devoir dit que vous êtes, oui, que vous rêvez un peu en couleur quand vous dites que si on était tous végétaliens ou végétariens ou véganes, là, on arriverait à nourrir 8 milliards de personnes avec les terres agricoles. Il dit que c'est pas vrai parce que ça demanderait de traiter de façon intensive les terres agricoles et notamment d'utiliser de plus en plus de produits chimiques.
Moi, c'est pas mon domaine d'expertise, l'agriculture végane, mais selon les gens que j'ai consultés et qui sont, eux, des spécialistes dans ce domaine-là, ben on me dit que il y a plein de défis à relever, c'est certain, en termes de avoir recours à des fertilisants, par exemple, qui ne soient pas d'origine animale.
Mais c'est ça, lui, il dit le fumier fait magnifiquement bien la job.
Oui, c'est ça, mais il y a d'autres moyens qui sont développés par les chercheurs, semble-t-il, et surtout, il faut se rappeler que c'est une manière très, très, très inefficace de produire des protéines que de faire de l'élevage, parce que il faut beaucoup, beaucoup, énormément de céréales, en fait, tous nos champs, on se plaint des ravages des cultures de soya, et alors tout ce soya-là est destiné, en fait, au bétail, ou à peu près. Donc, il y a une perte, il y a un gaspillage éhonté là, de protéines quand on transforme les céréales, les grains en animaux avant de les consommer. Si on consommait directement des plantes plus diversifiées, évidemment, il ne faudrait pas s'en tenir à des cultures, à des monocultures, mais il y aurait sans doute moyen de nourrir, de produire en tout cas beaucoup plus de nourriture sur un même espace.
Mais c'est vraiment très révolutionnaire ce que vous offrez comme pensée, parce que vraiment, là, aussi loin qu'on peut regarder l'évolution de la civilisation humaine, remontant à bien avant l'Antiquité, et bon, tout ça, il y a toujours eu des animaux d'élevage, il y a toujours eu des animaux qui ont été chassés pour se nourrir, ça a toujours existé, ça.
C'est vrai, mais disons qu'il y a toujours eu aussi de l'esclavage et du sexisme. Ça ne veut pas dire que c'est moralement acceptable et qu'il ne faut pas faire quelque chose pour faire changer les choses. Ouais. Surtout quand on a, parce qu'on a maintenant, ça c'est nouveau, les moyens de faire autrement. Et je voudrais aussi rappeler que quand même la question de notre rapport aux autres animaux se pose depuis l'Antiquité. Là, il y avait des chercheurs, des penseurs grecs qui défendaient, qui s'opposaient à l'exploitation animale de manière très très claire avec les arguments qu'on... Ben, je pense à Porphyre, par exemple, où on peut penser au régime, quand on parle du végétarisme, on en parle souvent comme le régime de Pythagore, toute une école de pensée. Le plus grand philosophe, probablement, de l'Antiquité prônait le végétarisme. Ouais, en tout cas, on a toutes les raisons de le penser.
Mais honnêtement, moi, j'ai rien contre ce que vous pensez, ce que vous prétendez. Ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que vous tentez de prêcher et de l'imposer. Puis ça,
ah oui, bien sûr. Bien sûr, parce que, en fait, si on faisait pas ça, c'est que ça serait une question, c'est qu'on considérerait que c'est une question de préférence personnelle, oui, de choix de vie. Mais c'est pas ça. C'est une question, justement, de éthique. C'est une question politique. C'est une question de libération d'individus qui ont des intérêts. Donc, c'est
vous
pas,
êtes la nouvelle religion.
Un choix. Ben non, parce que, est-ce que vous diriez que, par exemple, les luttes féministes sont une question de religion?
Non.
Est-ce que la lutte contre
non,
l'esclavage...
Non, mais votre croyance, vous voulez m'imposer votre croyance. Moi, je trouve ça fascinant, de la façon dont vous réfléchissez, jusqu'au moment où vous souhaitez que la loi intervienne et que moi, je sois obligée d'adhérer à ce que vous croyez.
Si, par exemple, quelqu'un... dans les affaires humaines, on comprend bien que quand c'est pas une question de simple valeur personnelle, croyance personnelle, si on protège les enfants, par exemple, ben c'est contre ceux... C'est même de ceux qui, eux, n'auraient rien contre les violences envers les enfants. On peut leur imposer de ne pas faire ça parce que c'est une question de justice. Et là, ce sont des arguments comme ça, rationnels, qui nous amènent, des arguments éthiques, qui nous amènent aux conclusions que c'est moralement inacceptable d'exploiter les autres animaux qui sont sensibles. C'est bien qu'on peut pas en faire un débat de simple préférence personnelle. C'est pas à ce niveau-là que les choses se passent, je pense.
Moi, j'allais juste vous dire que vous avez pas mal de pain sur la planche avant de convaincre les gens d'embarquer dans ça.
Oui, mais c'est un courant qui prend de l'ampleur. Le véganisme, c'est quand même beaucoup moins exigeant. Ma position, je reconnais qu'elle est très exigeante, elle va très loin. Mais disons que on peut encore une fois admettre une hiérarchie morale entre les individus, considérer que les êtres humains valent plus, mais se dire, j'ai quand même pas besoin de contribuer à la violence qui se fait envers les autres animaux pour des produits cosmétiques, des vestes en cuir, des produits d'origine animale.
Mais quand je vois des coquerelles, là, je les écrase. C'est-tu correct, ça?
Ben, c'est la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que la coquerelle avait des intérêts à vivre? Est-ce qu'elle était sensible? Je le sais pas.
Un rat en ville? On tue ça, un rat en ville?
Ben, un rat, c'est un être d'abord qui est sensible, qui a des intérêts, qui a des capacités super développées,
qui est un vecteur de grosses maladies, qui a failli exterminer une partie de l'Occident. C'est à un moment donné, est-ce que l'être humain a pas le droit de se protéger?
Ben, il y a pas un animaliste qui va s'opposer, par exemple, à la légitime défense. C'est un peu comme de la même manière que je peux me protéger contre un être humain qui m'attaquerait.
Ok. Mais donc les robes menaçants, j'ai le droit de les exterminer.
Ben il suffit pas, vous savez que c'est bien encadré en droit, okay, la légitime défense. Il suffit pas d'avoir soi-même subjectivement peur de quelque chose pour être autorisé, de quelqu'un pour être autorisé à le tuer. Évidemment, ça va être des critères à respecter. Okay. On espère que ce sera les mêmes un jour pour les animaux non humains.
C'est fascinant de vous
Madame,
parler.
Madame, vous avez une pensée vraiment originale. Je trouve pas d'autres mots.
elle est pas si originale que ça au sens où on la retrouve tout au long de l'histoire, en fait, cette approche-là.
Les vers de terre, qu'est-ce qu'on en fait?
Encore une fois, c'est ça tombe dans le domaine des scientifiques qui devront nous dire, qui devront évaluer si ce sont des êtres conscients ou pas.
Comme les homards. Les homards n'ont pas de système nerveux. Les vers de terre, ils n'ont pas de système nerveux.
Non, mais ils sont très sensibles. Attention à ce que tu dis, Myriam.
Pas sûr, moi.
C'est une question qui doit être étudiée, je pense, avec sérieux.
Merci beaucoup, Mme Giroux.
Au revoir.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Valérie Giroux est condamnatrice.
Au moins, on aurait réussi à avoir un rire.
Oui, mais je pense qu'elle est consciente qu'elle ne porte pas une parole qui est majoritaire. Mais maintenant, c'est un phénomène qui grossit. Mais Luc, ça m'inquiète parce que c'est un phénomène qui grossit. Et d'abord, je vais dire qui elle est, là, parce que les gens me le demandent.
Jusqu'à cet extrême, Myriam? Jusqu'à cet extrême, pas sûr.
Coordonnatrice au Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal. Et elle est une végane convaincue. Moi, ça me fait peur. Parce qu'à partir du moment où tu reconnais qu'un animal a des besoins et doit être protégé, ton chiot, par exemple, si tu as le choix entre nourrir un chiot ou un vieillard qui est en CHSLD, tu vas faire quoi? Tu vas nourrir le chiot? Pour moi, l'être humain a une préséance sur tous les autres animaux. Okay? Pour moi, l'être humain. Il y a préséance sur tout. Le jour où tu décides que tous les animaux sont égaux, y compris l'être humain parmi eux.
Mais moi, je dois te dire la seule chose où... La seule chose qui amène une sensibilité chez moi, c'est la disparition rapide qu'on vit à l'heure actuelle des espèces. Ça, je trouve ça extrêmement inquiétant, parce que l'équilibre dont tu parlais tout à l'heure, l'équilibre en question est en train d'être bouleversé.
Mon parrain, qui est un physiologiste, est un docteur en physiologie, il a passé sa vie à étudier un muscle de la cuisse de grenouille, OK? Bon. À un moment donné, c'est un scientifique. C'est vraiment un scientifique, un genre de professeur tournesol. À un moment donné, je lui disais ça, les espèces disparaissent. Il dit, ah oui, plus qu'avant. Ben, je dis oui. Il dit non. Il dit, les espèces ont toujours disparu. Toute l'histoire de la planète fait en sorte que des espèces dominantes ont chassé des espèces qui n'étaient pas dominantes. Et de tout temps, même avant l'être humain, des espèces ont disparu. Il dit, l'autre problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas combien il y a d'espèces sur la Terre. Fait comment peux-tu calculer qu'elles disparaissent?
Oui, mais quand tu vois disparaître des mammifères, quand tu vois disparaître les baleines à cause de la surpêche, quand tu vois disparaître les tigres, quand tu vois disparaître, c'est pas à cause d'un dominant qui est, à moins qu'on mette les espèces de chasseurs en safari qui
tuent
des animaux.
On peut s'entendre que quand les dinosaures ont disparu, c'était pas de notre faute, là? Il y avait pas d'auto, on chassait pas.
Myriam, je suis pas sûr qu'ils sont disparus. C'est ça le problème. Je pense que la disparition des dinosaures est une rumeur qui est non fondée.
OK, j'avais peur que tu me dises les dinosaures n'ont pas disparu. La preuve, ils font de la radio.
J'espère que c'est pas destiné à moi, cette affaire-là.
Non,
est-ce que t'es encore en train de m'humilier?
Nous avons le même âge, Luc. Mais tu sais,
ouf.
Moi, je pense qu'on n'a pas le droit de faire souffrir les animaux, et je pense qu'effectivement, il faut faire attention aux productions très industrielles, etc. Non. Mais oui, de là à mettre un animal sur un pied d'égalité avec l'être humain, je suis pas capable. Je suis pas capable.
Ben oui, d'autant plus que c'est pour ça que mes petites questions qui avaient de l'air ben niaiseuse, mettez-vous les serpents là-dedans, mettez-vous les poissons. Tu lui as demandé, mettez-vous les maringouins. Là, elle a dit que c'était une affaire pour les scientifiques de savoir si un maringouin est sensible. Dis, s'il approche de moi, il va manger une claque. Hein.
Je peux dire que quand tu y enlèves une patte, là, il a l'air à se tordre de douleur.
Ah, ça fait mal.
Non, mais le maringouin, il est sensible. Il a un système nerveux. Oui, il... Ben, je pense, en tout cas. N'oublie pas que ces gens-là veulent changer les lois, veulent faire en sorte que tu n'auras plus le droit de manger ton steak. Puis que tu vas être considéré comme quelqu'un qui fait un...
Ça n'arrivera pas.
Il y a de moins en moins.
Ah, non.
C'est la nouvelle religion. C'est la nouvelle religion. Ça d'ailleurs, on est dans les croyances. On n'est pas dans la science, les trois quarts du temps.
Ah, tout à fait.
Il est 12h35. OFM 93.